hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie de Merzak Alouache. Merzak Alouache, vous êtes cinéaste, auteur de très nombreux films. Le premier fut un véritable coup de tonnerre, c'était en 1976. Il s'intitulait Omar Gatlato. Ensuite, il y a eu d'autres films, tous aussi remarquables. Babel Wet City en 1994, Salut Cousin en 1996, L'Autre Monde en 2001, et puis plus récemment La Baie d'Alger 2011, Normal en 2011 aussi, Le Repenti en 2012, Les Terrasses, c'était l'avant-dernier, et puis nous attendons la sortie du dernier que j'ai eu la chance de voir au Festival de la Mostra de Venise qui s'intitule Madame Courage, car il n'a toujours pas trouvé de distributeur, mais nous allons en reparler tout au long de cette émission. Vous, vous êtes né en 44, donc vous êtes un fils de l'indépendance. Comment l'avez-vous vécu, cette indépendance?
Écoutez, je l'ai vécu avec bonheur, puisque c'était des journées de bonheur après une période très sombre. J'étais encore jeune et j'ai vécu, disons, les derniers mois, en tout cas les derniers mois qui ont précédé l'indépendance. C'était vraiment très dur à Alger. Moi, j'étais dans un quartier qui était limitrophe du quartier européen. Donc, j'habitais sur les hauteurs de Bab El Oued. On a dû se déplacer. Bon, voilà. Donc, la vie était rythmée par beaucoup d'assassinats, beaucoup d'explosions, etc. Et donc, l'indépendance est arrivée... J'avais pas une très grande conscience politique, mais l'indépendance, c'était la fête. Et c'était une fête populaire. Et j'ai l'impression que depuis ces fêtes de 1962, j'ai plus connu vraiment des vraies fêtes populaires en Algérie.
Et les débuts de cet État ?
Les débuts de cet État, tout de suite après, il y a eu des dissensions, il y a eu des problèmes et... Et donc, en fait, on a commencé à sentir que ça n'allait pas très bien se passer.
Dès le début, vous avez compris.
Dès le début. Après, donc, j'ai assisté à des manifestations, en tant que spectateur, où les gens criaient « Cette année, ça suffit ». C'est-à-dire qu'on voudrait la paix. La paix, voilà. Donc, il y avait ce mot de paix qui... Voilà, il y avait une confrontation. On savait pas très bien ce que c'était que cette confrontation entre des gens qui étaient dans les montagnes, des gens qui revenaient de Tunisie, du Maroc, etc. Et on avait très peur que le chaos s'installe.
Déjà au moment de la naissance de l'indépendance.
Ah oui, carrément.
Et donc, avec le recul du temps, pensez-vous, puisque c'est ce que vous filmez depuis des décennies, que la construction de cet État ait souffert d'un déficit de démocratie?
Oui, carrément. Je pense que maintenant, après toutes ces années, après beaucoup de mensonges, après beaucoup de deuil, après cette fameuse période qu'on a vécue, qui a été très dure, d'une dizaine d'années de terrorisme sanglant, de problèmes qui ont fait encore fuir des Algériens de ce pays. Je sais que les Algériens ont beaucoup fui l'Algérie depuis l'indépendance, par vagues. Ça n'a pas commencé dans les années 90. Depuis les années 70, les choses se sont détériorées. Alors j'observe aujourd'hui qu'en Algérie... un pays qui est composé d'une majorité de jeunes, de moins de 20 ans. C'est eux qui sont la population la plus majoritaire. Beaucoup de jeunes, à travers les réseaux sociaux, à travers les discussions, pensent que... ce qu'on a vécu dans les années 70, c'était merveilleux, c'était très beau, etc. Et que maintenant, c'est terrible. Et donc, c'est très difficile de leur expliquer qu'en fait, on n'a pas vécu des choses merveilleuses. Hein. On a vécu dans beaucoup de mensonges, on a vécu dans beaucoup de promesses et beaucoup de gens, donc des cadres. Beaucoup de cadres sont très vite partis parce que ils sentaient que, en fait, oui, il y avait un problème de démocratie. C'était le problème principal.
Vous n'êtes pas pour autant un cinéaste du désenchantement, puisque tous vos films participent justement d'un élan, d'une croyance en cette jeunesse qui, quelquefois, oui, effectivement, pense que pour pouvoir continuer à vivre, il faut quitter le pays. Oui. Mais après bien des tourments, hein, c'est pas dans l'exultation ni dans la joie qu'on quitte son propre pays. Et ça, vous le montrez admirablement. Pourquoi êtes-vous devenu cinéaste? Et est-ce que le cinéma n'était pas, au moment où vous avez commencé, car je crois que vous avez commencé comme documentariste au tout début, est-ce que le cinéma n'était pas justement une arme politique pour comprendre l'actualité, le cœur vibrant de ce pays qui était en train de naître?
J'ai commencé à être cinéaste par hasard. Hein. En fait, j'ai vécu des moments après l'indépendance. J'ai été obligé de travailler très tôt. Hein. J'ai été renvoyé du lycée, donc je me suis retrouvé...
Pour turbulence ?
Non, pour manque de travail, quoi. Et donc, je me suis retrouvé comme employé à la poste. Mais c'était cette période aussi assez intéressante, hein, malgré donc, les problèmes politiques qui se posaient. C'était une période où l'Algérie était ce pays nouveau que des gens à travers le monde venaient aider à exister. Donc,
avec une des plus grandes universités, voilà, où les intellectuels du monde entier venaient réinventer
l'utopie. Beaucoup de gens venaient faire des expériences, etc. Et puis, donc, il y avait beaucoup de possibilités qui s'offraient, c'est-à-dire que moi, qui étais un jeune sans diplôme, je pouvais aller dans des pays de l'Est, je pouvais aller n'importe où pour devenir aviateur, pour devenir architecte, n'importe quoi. Et puis, il y a une équipe de Polonais, justement, qui sont venus en Algérie et qui ont monté une école de cinéma. Et donc, moi, je suis arrivé au cinéma grâce à une annonce dans la presse algérienne, où on demandait aux jeunes de venir se présenter s'ils voulaient devenir cinéaste. Et donc, je me suis présenté, et puis voilà, j'ai réussi un examen qui était un examen assez ridicule. Et donc, j'ai appris petit à petit à être cinéaste. Et surtout, parallèlement, il y a eu quelque chose d'important qui s'est créé à Alger, c'est la Cinémathèque algérienne. Et donc, à la Cinémathèque algérienne, alors que nous n'avions pas un programme d'enseignement vraiment intéressant dans cette école cinéma, nous avions des projections et j'ai appris à regarder des films, à regarder 5 films par jour avec un professeur polonais qui nous a expliqué beaucoup de choses.
Nous allons écouter la voix de Roberto Rossellini qui, à mon avis, doit compter pour vous tant vos, oui, films sont la description à la fois de situation et de cartographie de votre propre pays, au micro de Simone Dubreuil à propos de la position humaine du néoréalisme. C'était un reportage au Festival de Venise le 28 août 1950, la voix de Rossellini.
Le néoréalisme, je pense, c'est surtout une position humaine. Très clair, n'est-ce pas ? C'est une position d'humilité. Alors, c'est à travers cette humilité qu'on peut comprendre avec une très grande chaleur humaine les hommes. N'est-ce pas ? Et c'est une position vraiment de sans armes, n'est-ce pas ? On est là, comment on peut dire avec un mot français, vraiment...
Désarmé,
n'est-ce pas ? C'est assez important, surtout dans un monde tellement armé.
Quand on voit et revoit Omar Gatlato, votre premier film, Merzak Alouache, on se dit que le néo-réalisme n'est pas loin et que peut-être les films de Roberto Rossellini étaient projetés, ouais, à la Cinémathèque d'Alger.
Oui, complètement. À la Cinémathèque d'Alger, j'ai découvert le néo-réalisme. C'était la période aussi du cinéma nouveau-brésilien, les débuts de la nouvelle vague, le free cinéma anglais, etc. Et puis surtout aussi les films tchèques et les films polonais qui arrivaient et qui délivraient un message alors que c'était un peu dur chez eux, et donc Polanski, Skolimowski, etc. Mais le cinéma italien m'a beaucoup plu, mais j'ai d'abord appréhendé le néo-réalisme italien par son côté un peu d'humour, de comédie. Et donc, effectivement, j'ai vu tous les films de Rossellini. On a travaillé sur ces films à l'Institut du cinéma, à la Cinémathèque, etc. Et ensuite, très vite, j'ai été plutôt attiré. Et là, ça me rapproche un peu de Omar Gatlato par les films de Ettore Scola. Et j'ai été marqué par un film qui s'appelait « Nous nous sommes tant aimés ». Et je crois que Omar Gatlato, c'est un peu un travail qui a été fait sur la base de ce film de « Nous nous sommes tant aimés ». C'était un film qui m'avait beaucoup ému et j'avais envie de raconter cette histoire de quartier comme on pourrait la raconter en Italie, quoi.
Alors, vous êtes un cinéaste de la rue. Je ne sais pas comment vous faites avec votre caméra, où vous la placez. Est-ce que c'est sur l'épaule? Est-ce qu'elle est sur pied? Est-ce qu'il y en a plusieurs, etc.? Mais en tout cas, à travers tous vos films, on a l'impression, en tant que spectateur, qu'on est dans la rue d'Alger, dans une rue d'Alger, dans des rues d'Alger, dans la Médina, dans Bab El Oued, et qu'on est parmi les passants, qu'on marche.
Oui, alors j'ai toujours essayé de travailler, bien sûr, en décor naturel, puisque il n'y a pas de studio en Algérie, il n'y a jamais eu de studio. Petit à petit, je me suis habitué justement à faire en sorte que ma caméra soit discrète. C'était assez difficile au début, puisque les caméras étaient très grosses, on nous imposait des équipes très lourdes, etc. Et à Alger, il y a beaucoup de ces gens qu'on appelle les désoccupés, qui peuvent rester toute la journée à regarder un tournage et à vous gêner. Et donc, il fallait trouver des astuces. J'ai jamais tourné avec deux caméras, mais avec une caméra. Et depuis quelques années, en fait, depuis l'avènement de la vidéo, et depuis que les caméras sont devenues plus simples à manier, plus petites, etc., j'ai une plus grande facilité à tourner. Donc, pour arriver à ces derniers films où pratiquement je tourne avec caméra épaule, je veux pas du tout m'installer, je veux pas bloquer de rue, je veux pratiquement pas de figurant.
Nous allons écouter la voix de Albert Camus à propos des liens forts qui l'unissent à l'Algérie. C'était le 13 novembre 1958, à l'occasion d'une conférence organisée par l'association L'Algérienne.
Je voudrais dire simplement, puisque nous sommes entre Algériens et que le fait d'être Algérien est la raison de ma présence ici, je voudrais simplement dire que personnellement, au long d'une vie où, en somme, les chances ont été plus grandes que les malchances, je veux dire la mienne, l'une des chances principales, l'une de celles que j'ai considérées comme étant la principale, est justement le fait d'être né en Algérie. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui, de près ou de loin, ne se rattache à cette terre. En l'occurrence, je n'ai exprimé qu'une chose que je sens profondément et depuis longtemps. Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais, et ce ne sont pas les moindres dans une vie d'homme, je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps, mais enfin, elles sont là, il s'agissait de les accepter. Et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, Arabes et Français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité.
Alors nous venons d'entendre la voix d'Albert Camus, c'était en 1958. Est-ce que aujourd'hui, c'est encore une chance d'être algérien? Parce que vu votre cinématographie, Merzak Alouache, on peut se poser la question.
Écoutez, quand on parle avec les jeunes de cette nouvelle génération, donc du 21e siècle. En général, ils ne trouvent pas que c'est une chance d'être né en Algérie. Pour eux, c'est une malchance parce que beaucoup de choses ont disparu. En même temps, avec les progrès de la technologie, de la communication, ils naissent, ils grandissent et ils voient ce qui se passe ailleurs à travers la télévision, aujourd'hui à travers Internet. Il voit beaucoup d'horizons bouchés. Moi, je travaille dans mes derniers films, même dans mes premiers films, je travaille sur la malvie. Et quand on parle de malvie, ça signifie qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose s'est mal enclenché. Et malgré toute la propagande officielle, malgré tout ce qu'on veut faire croire aux gens. Les gens vivent un quotidien qui est vraiment pas terrible. Alors effectivement, on peut aujourd'hui aller à Alger, trouver des gens qui vous diront ouais, on est très bien, on a tout, on a un 4x4, on a une piscine, etc. Ben, dans tous les pays, c'est comme ça. Hein. Il y a une couche de la population qui vit très bien. Mais la majorité de la population vit très mal. Et dans mes derniers films, j'ai pu circuler. J'ai pas seulement tourné à Alger. J'ai tourné dans des petites villes. J'ai tourné dans le sud de l'Algérie, etc. Et je peux vous dire que quand vous allez dans une ville très importante et qu'il n'y a aucun cinéma, qu'il n'y a aucun théâtre, qu'il n'y a pas de librairie, que les gens ne sont que là pour vivre leur quotidien, manger, dormir et travailler, c'est très dur.
Alors en même temps, vous mettez en scène la jeunesse, vous mettez en scène les différentes métamorphoses politiques de votre propre pays, vous mettez en scène aussi cette aspiration à la jeune génération de partir de ce pays, oui. Mais en même temps vous n'êtes pas du tout un cinéaste manichéen, c'est-à-dire vous ne montrez pas le départ, la déchirure de l'exil comme étant une solution. Et dans certains de vos films, je pense à l'un d'eux qui s'appelle Normal, oui. Vous mettez en scène une jeune femme qui finalement se résout avec beaucoup de tourments et de douleurs à quitter son propre pays et elle dit « Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. J'aimerais tant rester dans mon propre pays. »
Oui, 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 c'est des choses qu'on constate aujourd'hui. Alors, en même temps, comme je suis ici, je rencontre des Algériens qui sont ici et qui...
Vous vivez où, vous ?
Moi, je vis en France depuis 1993, mais je suis souvent...
Vous êtes un exilé politique ?
Non, pas un exilé politique, un exilé pour me protéger à une certaine époque, et ensuite un exilé pour
protéger des menaces, donc à cette période-là.
Protéger des menaces de l'époque, et maintenant pour poursuivre mon travail, pour essayer de continuer à être cinéaste, pour ne pas sombrer comme beaucoup de mes collègues là-bas, qui sont assez coincés, qui sont coincés dans leur expression et dans leur possibilité de travailler, de tourner des films. Et donc,
Parce que vous pensez qu'en ce moment même, en Algérie, même si le mot n'est pas prononcé, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de voile de censure sur l'expression artistique.
Oui, complètement. Alors là aussi, vous allez trouver des gens qui vous diront qu'il n'y a pas de censure, on peut tout dire, etc. C'est pas vrai. Moi, je subis la censure. Hein. J'ai subi la censure. Alors c'est une censure où on n'arrive pas vraiment à avoir des preuves de la censure, parce que la censure est toujours subtile hein, dans ce genre de pays. Par exemple, pour mon film Le Repenti, donc on me demande pas la possibilité de tourner, mais on me laisse tourner. Donc, je n'ai aucune preuve.
Alors, il faut préciser quelle est la thématique de ce film très important.
Alors, ce film est un film sur l'amnésie, sur le terrorisme, sur ce qu'on a appelé les repentis qui existent aujourd'hui. Quand j'ai tourné ce film, les repentis se tenaient à carreau. Ils avaient
alors, il faut expliquer ce que sont ces repentis.
Ah oui, alors, ces repentis, donc, c'est des terroristes qui c'est des gens qui ont pris le maquis qui ont été amnistiés en 2000, en 99, 2000, après des négociations, et qui sont revenus à la vie civile, qui sont devenus...
Et qui ont pu commettre des crimes au nom de leur idéologie qui appartenait au fils.
Oui, qui ont commis des crimes, et certains d'entre eux, des responsables, aujourd'hui, osent à la télévision dire qu'ils ont tué, mais sans problème, et on les laisse. Et aujourd'hui, en Algérie, ils ont repris du poil de la bête. Ils ne se contentent plus de faire du commerce, ils reviennent au devant de la scène avec sûrement des ramifications et par rapport à ce qui se passe à travers le monde arabe. Et donc j'avais ce projet de l'histoire d'un repenti, et ça n'était pas dans les cordes des gens du ministère de la Culture, donc on ne m'a pas financé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a quand même écrit une lettre pour me dire, voilà pourquoi nous ne vous finançons pas, parce que votre film est ambigu. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans ce film. Et puis, dans votre dernier film, qui s'appelle Halaga, vous avez montré un policier véreux. Donc, c'était une punition. Alors, la punition, c'était que je tourne ce film très vite. Et avec ce film et avec Normal, j'ai appris à travailler encore plus vite et avec beaucoup moins de moyens.
Alors, Le Repenti a pu être vu et a pu sortir en France. Est-il sorti en Algérie? Est-ce qu'il a été possible de le voir et est-ce qu'il a entraîné des débats?
Eh ben non, écoutez, en Algérie, il est sorti l'espace d'un petit festival à Alger. Ensuite, des rencontres de cinéma. Ensuite, tous mes films sont vus par les Algériens sur Internet ou sur des DVD piratés. Donc, en fait, le vrai problème, c'est que le cinéma en Algérie ne joue plus aucun rôle parce qu'il n'y a pratiquement plus de cinéma. Il n'y a plus de salles. Les salles sont fermées. Beaucoup de villes algériennes n'ont plus de salles de cinéma. On essaye de cacher ça. On essaye de mentir, de dire qu'il y a des salles, etc. Il y a même des réalisateurs qui disent « mon film va sortir en Algérie », mais c'est vraiment faux. C'est faux. Et puis surtout, depuis des générations, on a fait perdre le goût du cinéma. Et carrément, il y a des générations qui ne savent pas ce que c'est que d'être dans une salle de cinéma et de regarder un film. Donc si on doit régler ce problème, il faut tout reprendre à la base.
Alors vous êtes un cinéaste qui auscultait les différentes temporalités de votre propre pays, vous parliez du Repenti. Je pense que la situation, hélas, n'a pas changé depuis la sortie de votre film Le Repenti, c'est-à-dire que les ex-fils sont toujours dans des situations de pouvoir dans la société, régie quand même beaucoup par les militaires et avec un pouvoir... qui n'est pas très transparent. On ne sait pas dans quel état de santé se trouve Monsieur Bouteflika et s'il exerce véritablement le pouvoir. Dans ce film que vous venez de mentionner, donc qui s'intitule Aragas, vous mettez en scène aussi cette génération qui n'a comme perspective que de pouvoir partir de l'autre côté de la Méditerranée pour pouvoir continuer à respirer. Et au risque de leur vie, on les appelle, je crois, ceux qui brûlent.
Les brûleurs, oui.
Les brûleurs, ceux qui brûlent.
Ils brûlent.
Alors, en même temps, quand on voit vos films, on a l'impression que quand même, la vitalité, l'énergie de ce peuple, vous le mettez en scène. Et ce peuple, il est là en Algérie.
Oui, oui. Moi, j'adore être en Algérie, j'adore rencontrer les gens. J'aime travailler avec les gens du peuple. Il y a une catégorie de la population algérienne qui ne m'intéresse pas, que je ne peux pas approcher, qui sont arrogants, qui sont les nouveaux riches, les trafiquants, etc. Une espèce d'oligarchie, cela ne m'intéresse pas. Mais les gens du peuple restent malgré tout méditerranéen. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect méditerranéen. Alors, on a un problème, c'est que par rapport aux gens du Sud, on est très lointain, on n'est pas tourné vers le Sud, le Sahara. Bon, les Algériens vont un peu en vacances au Sahara, mais pas trop. Mais il y a ce côté méditerranéen qui est très intéressant. Et malgré donc ce que je montre dans mes films, ben j'éprouve du plaisir quand je rencontre ces gens pleins d'énergie là-bas, ces jeunes pleins d'énergie, ces paysages aussi, cette ville d'Alger.
Alors la ville d'Alger. Alors parlons-en. Alors, parce que tous vos films, je crois, tous commencent par des plans panoramiques d'Alger, des terrasses d'Alger, de la Médina, des rues d'Alger, petites ou grandes.
Oui, souvent. Alors Alger, donc c'est ma ville natale et
c'est chaque une fois... des plus belles villes du monde aussi.
Ouais, pour moi, oui. Pour moi, oui. Et la baie d'Alger est fantastique. Et donc cette ville, je pense qu'on essaye de la saccager, qu'on essaye quand même, qu'on la laisse comme ça un peu décliner. Mais malgré tout, il y a une vie incroyable dans cette ville. Elle est complètement déglinguée. Mais en même temps, il y a cette lumière, il y a ces gens, il y a ces lieux, il y a cette hospitalité. Quand j'ai tourné les terrasses, alors que je racontais des choses terribles, ben je me sentais bien sur ces terrasses.
Mais d'ailleurs, vous aimez bien les terrasses d'Alger,
oui, oui, j'adore.
Enfin, sauf ce qui y est installé, c'est-à-dire de plus en plus ces énormes haut-parleurs qui diffusent les prêches venues.
Oui. Alors c'est
imams,
les prêches donc font partie
qui empoisonnent l'espace public.
Oui. Mais ils empoisonnent et ils n'empoisonnent pas puisque les générations en fait les gens s'habituent à tout. Et donc il y a des gens aujourd'hui qui ont 30 ans qui sont nés avec cette atmosphère, avec cette ambiance. Alors ce que je montre dans les terrasses, c'est que la vie est rythmée 5 fois par jour par ces appels à la prière. On ne sait pas si les gens les écoutent, s'ils les entendent, s'ils les entendent pas. Mais chacun continue son petit business, chacun fait ses petites affaires, alors que ces appels à la prière donc sont là pour dire calmez-vous, reposez-vous un peu, pensez à Dieu, faites du bien, etc. Venez prier. La prière, c'est en principe pour être dans la sérénité. Et pourtant, moi je montre que ces appels à la prière n'empêchent pas les gens de courir à droite, à gauche, d'être dans une atmosphère de violence.
Nous allons écouter non pas la prière, mais une autre forme de prière. Nous allons écouter le regretté Matou Blounès dans sa chanson Kenza.
خنت تغزا دوث مذلين تفغد ثغريم صرار حب وبها تروى دوث مذلين تفغد ثغريم صرار حب وبها تروى لكن زايلين صد راسي المحلى سفلا نغلي في الزير وزكا لكن زايلي ورد سرويا خاص تركيا الجدسة تفسي تكثر تمسى ترى خاص في الاقصحى الثيزي يفاشل لدنا جود وام خاص نقضن اشحال ذي تريم يني ورينا يرى خاص نقضن اشحال ذي تريم يني ورينا يرى لكن زايلي.
Les chansons sont très importantes pour définir l'identité collective du peuple algérien et celle-ci peut-être encore plus que d'autres. Que représente pour vous Matou Blounès et savons-nous aujourd'hui les circonstances et les causes de son assassinat? C'était en 1998.
Ben écoutez, pour moi Matou Blounès c'est quelqu'un de très important, c'est un très grand chanteur, en même temps c'est quelqu'un qui était très puissant. Alors, effectivement, pour l'instant, il y a toujours une controverse sur son assassinat. Mais il est présent, il est toujours présent. Hein. Il est toujours là, il existe en tout cas sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup, on écoute ses chansons. Moi, j'ai connu Matou Blounès en 94. Je tournais un documentaire pour Arte et j'ai été tourné en Kabylie. Et je suis allé chez Matou Blounès, je l'ai interviewé. Et c'est ce jour-là que j'ai entendu cette chanson. Et cette chanson, Kenza, est une chanson, il l'a jouée avec sa guitare ce soir-là. Et c'est une chanson qui est dédiée à Tahar Djaout, un journaliste et écrivain algérien qui a été assassiné, qui venait d'être assassiné en Algérie. Et Kenza, c'est la fille de Tahar Djaout. Donc il a écrit une chanson pour elle, et dans cette chanson, il cite aussi les noms d'autres gens qui ont été assassinés. Et donc j'ai rencontré ce chanteur qui était vraiment très fort, qui disait des choses, on le surnomme le rebelle. Et donc j'ai vraiment une grande admiration pour cet artiste algérien et kabyle aussi.
Alors vous venez de parler de ces années tragiques en Algérie. En apparence, on vit sous une autre ère depuis maintenant longtemps. Mm-hmm. Mais est-ce que les cicatrices sont-elles vraiment refermées? Et d'autre part, est-ce que cette jeunesse est désireuse d'oublier ces années-là? Je pense notamment à une scène d'un de vos films récents qui s'intitule « Normal » où une jeune femme dit au personnage principal qui est un cinéaste, elle est la scénariste de ce cinéaste, il lui parle de ces années-là et elle dit « Mais moi, je veux plus entendre parler de ça, on a tellement souffert, c'est fini maintenant, on veut vivre et dans le bonheur ».
Oui, il y a cette façon de voir les choses en Algérie. Donc il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler de ce qui s'est passé. Ils essayent d'oublier. Je pense qu'il y a une espèce de schizophrénie en Algérie. On sent toujours une violence qui est le résultat de la violence extrême qu'on a vécue dans les années 90. Et donc, le problème de l'attraction-répulsion par rapport à cette violence, c'est le plus exprimé lorsque, autour de l'Algérie, il y a eu ce qu'on a appelé les révolutions arabes, la révolution en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte, etc. Et là, le débat a ressurgi, le débat sur ce qu'on venait de vivre a ressurgi, après quand même une amnésie de 10 ans. Une amnésie officielle. Alors il y avait l'amnésie officielle puisque on ne devait plus parler de ces années. C'était une déclaration du président qui disait c'est terminé, nous sommes redevenus frères. Et les gens avaient envie aussi de ne plus parler de ça parce qu'ils sortaient de cette période, ils avaient envie de vivre. Et brusquement, la peur de recommencer a fait que le débat s'est réouvert. Et le débat a été réouvert et a permis aussi à des gens qui n'avaient pas oublié, en particulier les familles de victimes du terrorisme, les familles de victimes des enlèvements, beaucoup de gens, des mères de familles, etc., se sont remises à manifester et à parler. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a ce débat sur... est-ce qu'on est sorti de cette situation ou non? Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti. On est dans une violence incroyable, qu'on essaye de cacher, mais qui est là. Et dans mes derniers films, j'essaye d'observer cette société qui, à mon avis, est très malade.
Alors, dans votre avant-dernier film, Les Terrasses, vous auscultez ces vertiges entre générations, entre classes sociales qui sont de véritables fêlures et ces clans qui s'affrontent. Mais depuis longtemps, et vous le faites plus particulièrement dans ce dernier film, vous mettez en scène des jeunes femmes. Dans Aragaz, vous mettiez en scène une très jeune femme qui voulait, comme ses camarades masculins, franchir la Méditerranée alors que ses camarades ne voulaient pas d'elle. Oui. Et dans le dernier film, Madame Courage, que j'ai pu donc voir à Venise et qui, je l'espère, sera distribué très vite en France, vous mettez en scène une jeune femme qui est bien dans sa peau, mais qui est complètement enfermée dans son périmètre familial et qui est surveillée par ce qu'on appelle son grand frère, au propre et au figuré. Mmh. Et cette jeune femme va être le sujet, si j'ose dire, parce que c'est pas un objet, le sujet du désir d'un jeune homme qui n'est pas du tout de cette classe sociale, qui est plutôt un jeune homme très très pauvre, une sorte de vagabond qui vit dans les banlieues les plus terribles, les plus sordides d'Alger, qui va jeter son dévolu sur cette jeune femme. Vous êtes un cinéaste tellement subtil que nous, spectateurs, on peut imaginer que cet amour est réciproque, même s'il ne se voit que de loin et ne partage pas d'espace commun. Mais rien n'est possible dans cette Algérie où les antagonismes sociaux et religieux sont devenus de plus en plus préoccupants.
Oui, j'aurais pu appeler ce film « L'Algérie des impossibles ». C'est-à-dire qu'effectivement, je raconte une petite histoire d'amour, très simple.
Une grande histoire d'amour.
Ouais, mais en même temps, une histoire qui pourrait être banale dans n'importe quel pays. Et là, cette histoire, ces deux personnages, la fille et le garçon, baignent dans une société très rigoriste, en même temps très hypocrite, en même temps une société de classe. Pour moi, cette fille vit dans la même situation que ce garçon. Elle vit dans une cité qui est vraiment une cité populaire très misérable, et lui vit dans un bidonville. Bon, donc le bidonville où il vit est construit au pied d'une cité qui n'est pas terminée. Peut-être que ces gens espèrent un jour habiter là. Et cette histoire d'amour arrive comme ça, et on se dit, bon, je me dis, mais ils ne peuvent pas vivre leur histoire d'amour. La société telle qu'elle est à présent ne leur permet pas de vivre l'histoire d'amour qu'ils ont envie de vivre, tout en constatant qu'aujourd'hui en Algérie, et justement paradoxalement depuis les années terrorisme, la femme algérienne est sortie. La femme algérienne n'est plus comme elle était.
Ce sont même les femmes qui sont sorties les premières dans les rues d'Alger.
C'est les femmes qui sont sorties les premières, mais maintenant elles sont présentes partout. Mais malgré ça, elles sont présentes et absentes. Par contre, la relation homme-femme est toujours la même, c'est-à-dire relation cachée, hypocrite, surveillée, punie. Elle n'a pas évolué. Dernièrement, sur Internet, il y a eu un petit scandale. Un personnage qui vit dans une banlieue d'Alger, près de la mer, un lieu qui s'appelle Fort de l'eau, qui est au bord de la mer. Il y a des rochers. Il se filme avec un groupe, bon, c'est un barbu bien sûr, avec un gros bâton, et il va chasser les couples qui sont dans les rochers.
Parce qu'il faut expliquer qu'à Alger, comme dans d'autres villes d'Algérie, oui, l'espace familial et pour l'amour est quasiment impossible. Parce qu'on est très très nombreux, voilà, dans des petits appartements, oui, et oui, que donc...
C'est impossible. Voilà. Donc les jeunes se rencontrent là où ils peuvent. Et effectivement, il y a ces endroits un peu déserts. Donc c'est très loin de chez lui. Et lui, il se fait filmer par quelqu'un, il est avec un groupe... Et il se fait filmer sûrement par un téléphone. Et il dit, en énervé, il dit, mais ces gens viennent m'embêter. Moi, j'habite à côté. Ils viennent là. Ils font des choses, etc. Et on voit donc, on le voit arriver avec son bâton et menacer des couples. Et toutes les femmes sont des femmes voilées, avec même certaines qui ont le niqab, c'est-à-dire le voile noir intégral, qui sortent. Personne ne lui résiste. Et ces couples fuient. Et donc, ils ont mis ça sur Internet. Et il y a eu un tollé quand même de gens qui ont protesté, à tel point qu'il est revenu quelques jours après. Il s'est mis face à une caméra et il s'est excusé. Il a dit non, j'étais juste énervé, je ne suis pas un salaud. Bon, voilà, donc ça explique un peu où on en est en Algérie. Et ce personnage qui a fait ça parle très bien français. C'est quelqu'un qui a 60 ans et qui dit des choses très sensées, mais qui est dans l'intolérance. Donc cette intolérance, voilà, c'est quelque chose que sur lequel je travaille dans mes films, c'est l'intolérance. Et cette intolérance, elle est à tous les coins de rue. On la sent.
Alors l'intolérance, effectivement, vous l'auscultez depuis très longtemps, et dans ce dernier film, elle est particulièrement criante. Il y a à la fois l'intolérance de ce grand frère qui s'estime propriétaire de cette jeune femme, ouais, qui est en train de construire sa personnalité, ouais, et qui ne veut pas accepter autre chose que sa propre loi qu'il a édictée et qui est donc la seule sous laquelle doit vivre sa petite sœur. Est-ce que c'est l'écho d'une réalité ? Autre intolérance, vous montrez souvent dans ces milieux où on est obligé pour pouvoir vivre, de survivre par n'importe quel moyen, et c'est le cas dans ce dernier film, vous montrez la mère de ce garçon qui vit dans un bidonville comme acceptant que sa fille, donc la sœur de ce vagabond, puisse survivre en faisant de la prostitution.
Oui, Oui, c'est, ben, c'est.
Elle est même fière que sa fille puisse faire de la prostitution.
Oui, tout en écoutant des prêches religieux toute la journée à la télé. Aujourd'hui aussi, il y a ce phénomène de prêches religieux, moralistes, etc., qui font fureur en Algérie. On se branche sur des chaînes du Moyen-Orient. Il y a même des vedettes algériennes, des vieux qui font des prêches qui sont comiques, qui savent parler, qui parlent un langage populaire et qui sont vraiment très célèbres chez les femmes au foyer, par exemple. Et donc, ça n'empêche pas que les petites affaires continuent. C'est aussi, là, je travaille aussi sur l'hypocrisie, sur certaines choses qu'on prétend extérieurement et d'autres choses qu'on fait en douce, quoi.
Vos personnages, en tout cas ceux que vous mettez en scène, ne semblent pas être des acteurs professionnels, à l'exception de quelques-uns. On a l'impression que ce sont des personnes que vous avez pu rencontrer dans la vie quotidienne et que vous allez magnifier. Est-ce que c'est le cas de ce dernier film, où à la fois ce jeune homme peut ressembler à une sorte, moi j'ai pensé à James Dean dans À l'Est d'Éden, c'est-à-dire qu'il est un révolté, il ne transgresse toutes les lois sociales qui pourtant pèsent sur lui, il poursuit sa vérité, sa propre vérité, c'est-à-dire l'amour pour cette jeune femme, au risque, on ne va pas raconter le film, mais au risque d'en mourir.
Oui, c'est un jeune qui n'est pas acteur du tout. La plupart des personnages, des acteurs de ce film sont des non-professionnels. Et lui, c'est un jeune d'un quartier d'Alger que j'avais déjà rencontré pour Les Terrasses, où il avait un petit rôle. Et quand j'ai écrit Madame Courage, je pensais à lui. Et en fait, il y a des choses que je n'avais pas besoin de lui expliquer parce que il avait déjà l'expérience de tout ce que je racontais. Il avait l'expérience de cette Madame Courage, parce que Madame Courage, c'est une drogue très dure en Algérie qui fait des ravages actuellement, qui est très répandue. Et cette drogue est issue de psychotropes, et en particulier de médicaments qu'on utilise pour la maladie de Parkinson. Les jeunes prennent ça, et c'est eux qui ont surnommé ce poison Madame Courage, parce que ça leur donne un courage incroyable, et ils peuvent commettre, ils sont dans un autre... dans une autre dimension, ils peuvent commettre n'importe quel délit, ils y croient.
Et donc, manifestement, dans votre film, tout le monde sait que cette drogue, Madame Courage, circule et tous les commerçants savent que ça donne des accès d'hyper-réalité.
Oui, si vous allez en Algérie, vous demandez qu'est-ce que c'est Madame Courage, ils savent. Hein. Et en plus, ce qui est bizarre justement, c'est par rapport à l'arabisation. En fait, on l'appelle Madame Courage. C'est les jeunes des quartiers populaires qui appellent en français cette drogue Madame Courage.
Quand verra-t-on votre dernier film magnifique, Madame Courage ?
Ben écoutez, quand des distributeurs voudront bien le prendre pour le sortir, bon, on a toujours des difficultés. Aujourd'hui, le cinéma arabe en France a beaucoup de difficultés, bon, à part quelques exceptions. Donc, en tout cas, moi, je trouve difficilement des distributeurs.
Ben écoutez, on espère que ça va venir vite, tant ce film est magnifique.
J'espère.
Et je rappelle que tous vos autres films sont disponibles en DVD. Merci beaucoup, Merzak Alouache.
Merci de m'avoir invité.
Merci à Julie Garraud, Corinne Amard, Élodie Royer, Julien Rosa, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.